commencer ce journal, une étude parue dans Nature Neuroscience. Nos prises de décision sont en réalité plus guidées par des erreurs d'évaluation de notre cerveau que par notre curiosité.
Une équipe INSERM s'est posé cette question. Pourquoi certains de nos choix semblent poussés par l'envie d'explorer l'inconnu? Par exemple, dans quel restaurant dîner ce soir? Plutôt cette adresse qui m'est chère ou plutôt celle-ci que je ne connais pas? Une expérience a été menée avec une centaine de personnes placées dans un jeu de machine à sous. Ils devaient choisir entre deux leviers, un qui marche et qui enclenche des récompenses, et le second plus incertain. Ils ont ensuite créé un modèle mathématique du comportement et enregistré l'activité cérébrale des participants. Lorsqu'il est amené à réaliser deux fois le même choix, on voit que le néocortex, une zone impliquée dans la prise de décision, fluctue et n'active pas exactement les mêmes régions cérébrales. Valentin Viard est chercheur INSERM au laboratoire de neurosciences cognitives de l'ENS à Paris. Il est co-signataire de cette étude.
Ce qu'on s'est rendu compte, déjà au niveau juste comportemental avec cette approche de modélisation, c'est qu'en fait, plus de la moitié de ce que les gens appellent habituellement des choix exploratoires tirés par la curiosité, étaient en fait des choix qui étaient uniquement le résultat d'erreurs d'évaluation des options. Autrement dit, ça implique que beaucoup de ces choix que les gens pensent être des choix curieux, le sont en fait totalement à l'insu des sujets, sans aucune intention consciente d'explorer. Les sujets commettent des erreurs, ils ont l'impression de choisir le meilleur levier, mais ils le font sur la base d'informations incorrectes calculées par leur cerveau, et donc sont poussés à commettre des erreurs. Une fois qu'on avait ce nouveau modèle mathématique qui montrait que les sujets commettaient des erreurs d'évaluation, ben on s'est demandé quelles étaient les régions cérébrales qui s'activaient lorsque les sujets commettaient ces erreurs d'évaluation. Et là, ce qu'on s'est rendu compte de façon assez évidente, c'est qu'en fait, les régions cérébrales qui étaient habituellement associées à l'exploration dans ce genre de jeu sont en fait exactement les mêmes régions qui s'activent au moment d'erreur d'évaluation. Autrement dit, ces régions sont peut-être probablement plutôt des régions qui reflètent à quel point on est précis lorsqu'on met à jour la valeur des différentes options parmi lesquelles on choisit, mais ne sont pas nécessairement les régions de la curiosité. Et donc, c'est assez important pour essayer de comprendre d'où vient cette exploration vers l'inconnu et pour comprendre de façon générale comment fonctionne le cerveau, parce que vous comprenez bien que c'est un problème si on pense que telle région cérébrale est la région de la curiosité, alors qu'en fait c'est uniquement une région qui, disons, qui régule la précision de nos calculs dans le cerveau.
En bref, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, nous aurions peut-être découvert un nouveau type de trou noir.
Un minuscule trou noir, presque indétectable. Les chercheurs de l'université de l'Ohio ont étudié les mouvements d'étoiles à 10 000 années-lumière de la Terre dans un système de la constellation du Cocher. Une géante rouge de 3,2 fois la masse du Soleil orbite autour d'un objet qui ne fait que 20 km de diamètre, c'est-à-dire la longueur de Manhattan, mais de 3,3 fois la masse du Soleil. Il s'agirait d'un trou noir calme, car contrairement à ses semblables, il ne semble pas dévorer les gaz de son étoile partenaire. Il manque encore des données afin de pouvoir trancher sur la nature de cet objet.
Une étude parue hier dans Science toujours nous apprend que les néonicotinoïdes affectent aussi les écosystèmes aquatiques.
On connaît les effets ravageurs des pesticides sur les abeilles, mais nous n'avions pas encore mesuré les effets collatéraux de ces produits sur les poissons. Cette équipe japonaise a analysé 20 ans de données de surveillance de la qualité des eaux, et notamment celle d'un lac. Dès l'utilisation des néonicotinoïdes dans les rizières en 1993, la biomasse du plancton a chuté de 87%. Cela a ensuite impacté tout le reste de la chaîne alimentaire. Les chercheurs montrent l'effondrement de deux espèces de poissons d'eau douce qui se nourrissent de plancton.
Et une étude parue dans Scientific Reports montre que les Néandertaliens savaient maîtriser le feu.
Alors on s'en doutait, mais on ne savait pas s'ils savaient déclencher un feu. Une équipe internationale prouve qu'ils en étaient bien capables. Ils ont analysé la composition chimique d'une ancienne grotte. Le taux d'isotopes d'hydrogène dans les couches sédimentaires montre une utilisation intensive du feu par les Néandertaliens. De plus, l'étude montre que les feux de forêt autour de cette grotte étaient rares. Homo sapiens n'a donc pas le monopole du feu.
Et toute cette semaine, dans le Journal des Sciences, Natacha, on a parlé des mécanismes des leucémies infantiles, du Botswana qui serait le berceau de l'humanité, du fonctionnement d'un nouveau traitement contre la grippe et de la première observation in vivo des protéines Alzheimer dans le cerveau. Mais cette semaine également, Natacha, et en ultra bref.
Aujourd'hui, la Russie entame la première phase de test de son propre réseau Internet, le Runet, un système national complètement fermé. Officiellement, ce serait pour se protéger des cyberattaques. Le projet de loi permettra à Moscou de se couper des réseaux étrangers. Et enfin, les chercheurs de l'université d'Oxford viennent de prouver qu'il suffit de penser à une lumière vive pour que nos pupilles se contractent. Ce mécanisme nous permet d'anticiper un changement de luminosité avant qu'il ne se produise.
Thank you.